Oui, mais le mal, c'est aussi, pourquoi pas aussi la fin de la vie de Pasolini. Hein. Le mal, c'est, je rappelle, les conditions terribles dans lesquelles il est mort. On sait qu'il a été roué de coups, lynché et puis écrasé par sa propre voiture. C'est aussi les déceptions idéologiques, la fin du marxisme, du communisme. Ce sont les expériences limites cherchées par l'auteur. C'est bon, Pasolini a incontestablement voilà un rapport au mal qui a laissé des traces dans son œuvre. C'est aussi, je l'ai déjà dit, la haine du père, voilà. Et toute son œuvre va être justement toute son œuvre va chercher à sacraliser justement le profane, à sacraliser le profane. Alors on pourrait citer aussi cette citation de Dante qui vient en quelque sorte surplomber la misère du film. Hein. L'ange de Dieu me prie et celui de l'enfer criait « Ô toi du ciel, pourquoi me prives-tu ? Tu prends la part éternelle de cet homme dans une petite larme qui me l'enlève. » Alors pourquoi il fait ça à Pasolini ? En fait, il projette sur ses personnages miséreux, perdus, sur ces personnages qui, d'ailleurs, qu'il allait chercher, des acteurs qu'il allait chercher dans les faubourgs, dans les banlieues, pour la plupart illettrés, ils projettent une sorte de lumière, une sorte d'aura qu'ils n'ont pas a priori. C'est-à-dire qu'ils leur donnent une grâce que les personnages n'ont pas. C'est comme si chez Pasolini, en fait, les personnages, en fait, avait déjà la grâce. Il suffit de les filmer. Parce que cette grâce, voilà, ils l'ont déjà.
L'humanité, elle est là.
Voilà. Il va chercher justement un monde d'avant la loi, voilà. Un monde primitif, un monde qui a échappé justement au consumérisme, qui a échappé à la société, voilà, de consommation, une espèce d'état naturel.
Des exclus aussi de cette société en même temps.
Et il pense que ces gens-là ont une innocence, voilà, une innocence
que le bourgeois
n'a plus. Et c'est pour ça que ça rejoint un petit peu les propos de Rossellini, c'est-à-dire les choses sont là, il suffit de les filmer. Et Pasolini va être dans cette idée que ces personnages vraiment ont une grâce que le monde bourgeois, que le monde consumériste a complètement perdu.
Oui, alors dans cette perspective-là, sur le plan du style, le recours au gros plan et à la perspective frontale qui fait que le spectateur est comme devant un tableau lorsqu'il contemple l'écran. Donc le gros plan contribue à sacraliser les visages. Il les isole un à un et il les filme dans un geste d'élection qui est aussi un geste de consécration. On voit cela, par exemple, au tout début d'Acatone, et où tous ces souteneurs, Macro, enfin, sont là devant un tout petit bistrot, et ils les filment en majesté, visage après visage, avec une sorte de gravité amoureuse. On voit cela aussi, ces gros plans où le visage occupe tout l'écran dans l'évangile selon Matthieu lorsque
selon Saint Matthieu mais ça c'est pas on n'est pas d'accord non mais je rigole c'est pas grave
en italien c'est il vangel mais si c'est la traduction française c'est condo maté en italien donc il a refusé justement la sanctification de Matthieu qui est un écrivain un des évangélistes
ça pourrait presque être ironique si
oui oui mais c'est pas
façon.
Pourquoi les Français n'ont pas dit l'évangile selon Matthieu enfin bon et donc au moment du recrutement des apôtres, Pasolini filme au moment où le Christ les interpelle, les quatre pêcheurs, il filme leur visage plein de bonté, de surprise et déjà d'abandon face à une force supérieure qui les appelle et les subjugue.
Ils se demandent ce que leur veut ce mec, si tu veux, qu'il passe sur la plage, en fait.
Alors pourquoi ne pas passer l'extrait de l'évangile selon Matthieu ?
Mais on est calé.
Allez. Là, c'est un plan large où le Christ est filmé de trois quarts d'eau. Il marche au sommet d'une sorte de colline, une crête. Et au lointain, des collines, et on entend les chœurs russes. Il va croiser des paysans, cinq paysans avec des fourches de bois.
Ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino.
Je crois qu'il leur dit, repentez-vous car le royaume est proche.
Et oui.
Donc filmé toujours, silhouette noire, robe blanche. Il approche du lac. Oui, avec son voile marial.
Oui, oui, mais noir.
Oui, noir. Et donc là, il y a une scène magnifique où on voit les pêcheurs tirer leur filet de l'eau dans le travail quotidien. Interpellation, Pierre.
André.
Venite con me.
Venite con me.
Venez avec moi. Je vous ferai pêcheur d'hommes.
Jeu de mots pour les pêcheurs.
Et donc, subjugués, ils laissent tomber leur filet et le suivent dans... restent muets. Et Pasolini filme maintenant deux jeunes pêcheurs qui sont en train de tirer les filets sur la plage et qui courent avec une sorte d'allégresse, de joie enfantine, innocente et pure. Joie de... Il reste du mouvement pour le mouvement et de l'adhésion à la vie et au monde. Il les interpelle.
Giacomo, Giovanni, figli di Zebedeo, venite con me.
Et donc, il filme maintenant de dos le groupe qui s'éloigne, le Christ en tête, à gauche les deux premiers qu'il a appelés à lui, puis les deux plus jeunes à droite. Voilà, fin de la séquence, et c'est...
La messe est molta, ma gli operai sono pochi.
Fin. Donc c'est au moment où il les appelle que sont filmés ces visages... Ces visages qui semblent, dans le présent, retrouver les visages du passé comme une survivance et comme un éternel retour du même. C'est-à-dire ces hommes du peuple, ces prolétaires qu'ils sont aussi et que Pasolini a filmé dans le sud de l'Italie.
Ce qui paraît un peu extraordinaire, après je te passe la parole Olivier, ce qui paraît extraordinaire c'est que quand on voit l'évangile selon saint Matthieu, on a l'impression justement de cette instantanéité des corps en train de bouger, comme si on était, on ne sait plus si on était il y a 2000 ans ou dans 2000 ans. Donc ça c'est le grand talent de Pasolini d'incarner cette figure totalement mystérieuse, hiératique, calme et impérieuse du Christ, comme s'il était venu d'ailleurs, mais en fait comme s'il s'incarnait parfaitement, même avant sa résurrection. D'ailleurs, la question de la résurrection sera totalement elliptique à la fin du film, de façon assez étrange. Voilà. Alors, par ailleurs, aussi, le Christ, il a une façon de parler un peu plus loin, péremptoire, détaché des autres, il manie la parabole avec vigueur et conviction. Voilà, mais aussi il se laisse entraîner par la foule avec des airs de bonhomie. Pasolini a su rendre humain ce personnage mythologique de notre culture dans un décor qui par ailleurs est assez dévasté dans le fond. C'est une ville en ruine, Jérusalem, il me semble. Je sais pas où il a filmé ça.
À Matera. Oui,
on a l'impression.
La ville troglodyte.
Voilà, on a l'impression que c'est une ville en fait troglodyte justement. Voilà.
Oui, donc, c'est bien qu'il était allé en Palestine faire des repérages.
Ah oui, c'est ça.
Et
oui.
Extrêmement déçu, il a trouvé que tout était détruit par la modernité. Et il a retrouvé quelque chose d'originel dans ces paysages du sud de l'Italie qui n'étaient pas encore atteints par cette espèce de révolution techno-industrielle qui a défiguré l'Italie et a tout dénaturé.
Hein. Bien sûr. Alors attends, Olivier, peut-être juste.
Oui,
sur la figure du Christ, là, tu n'as pas quelque chose à dire?
Oui, oui. Bon,
parce que toi, quand même,
écoutez, non.
Qui est un spécialiste du sacré.
Alors oui, moi je voulais rebondir quand même un petit peu sur le... Alors évidemment, pour moi, l'évangile selon saint Matthieu, c'est évidemment un chef-d'œuvre. C'est la fin. Alors j'ai parlé d'introduction
du pôle de la mère, eh ben, là, il fait, c'est quand même extraordinaire, il fait jouer sa mère, évidemment. Oui. C'est un geste unique, peut-être, dans l'histoire du cinéma. Oui. Sa maman n'était pas du tout actrice, elle joue le rôle de Marie. Et c'est peut-être le film qui clôture, justement, le néo-réalisme et la période que j'avais parlé, à l'introduction de la période élégiaque, douce, de Pasolini, ce pôle un peu... ce pôle serein, élégiaque du côté de la mère, et après il y aura le pôle du côté du père, beaucoup plus froid, théorique, très intéressant aussi, mais très différent. Alors moi, Monique avait abordé la question du style, et je trouve que c'est intéressant de rebondir un peu sur le style aussi de Pasolini, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, Pasolini est mal accueilli précisément à cause de son style, parce que justement il parle, c'est lui-même qui le dit, il parle de style sans style. Ou encore, on a parlé la semaine dernière, la dernière fois, d'écriture magmatique. C'est-à-dire un style, justement...
Magmatique, c'est-à-dire
Un style qui mélange un peu tout, qui mélange
de l'ordre,
en fusion.
De l'ordre
en fusion,
du magma, ouais.
En fusion. Alors, ouais. Pasolini, par exemple, c'est quelqu'un qui utilise énormément la caméra. Il découvre la caméra, c'est un objet magique pour lui, et c'est quelqu'un qui va utiliser énormément les mouvements de caméra.
Il la prend en main.
Voilà, il la prend en main, il utilise le travelling avant, par exemple, il utilise le zoom, il utilise des procédés de surimpression, il utilise la post-synchronisation, il utilise des images par moments brûlées, vous savez, des images carrément avec une lumière surexposée. Alors c'est quelque chose qui n'est pas forcément apprécié, notamment par les néo-réalistes de l'époque. Il est très critiqué par Fellini, qui lui dit par exemple « Mais pourquoi tu fais autant de mouvements de caméra? Pourquoi tu fais autant de travelling ?» Et pourquoi pour le moment il y a du flou? Pourquoi il y a de la post-synchronisation? On n'entend pas très bien le son dans tes films. Et puis à l'époque, il y a quand même deux théoriciens très importants, parce que la théorie du cinéma à l'époque va être très importante. Le premier, c'est Bazin, qui va écrire un article dans Qu'est-ce que le cinéma qui s'appelle Montage interdit. Montage interdit, donc c'est à propos d'un documentaire. C'est un documentaire de Robert Flaherty qui s'appelle Louise and a Story, dans lequel on voit donc un crocodile manger un héron, et Bazin s'extasie parce que c'est filmé en un seul plan séquence. Et il n'y a pas de montage, justement. Il dit montage interdit. C'est l'idée que voilà, le cinéma doit être à hauteur d'homme.
La réalité, quoi.
Et doit filmer la réalité dans son aspect le plus brut. Oui. Que fait Pasolini? Pas du tout.
Il parle de la robe sans couture de la réalité.
La robe sans couture de la réalité, effectivement. Et que fait Pasolini, justement? Il aime la réalité, mais il l'enjolive. C'est-à-dire qu'il la filme avec des... Il aime un petit peu la déformer, il aime l'enjoliver. C'est-à-dire que sur les prostituées, sur les terrains vagues, il va mettre de la musique classique, il va mettre des gros plans, il va mettre une lumière qui va enjoliver, qui va rendre les personnages
magnifiés,
qui va magnifier les personnages.
On peut répéter,
les personnages. Donc ça, c'est la première théorie. C'est la théorie de Bazin, montage interdit. Donc qu'est-ce que le cinéma? Très bel article, évidemment. Article qui fait date. Deuxième article très connu, c'est un article de Rivette qui s'appelle De l'abjection, qui est un article sur consacré au travelling de Capot. Vous savez, dans un film de
Pontecorvo,
que je n'ai jamais vu, du reste, avec Emmanuel Riba.
C'est bien de parler d'un film qu'on n'a pas vu, bravo.
Non, mais justement, c'est très...
Comment
très
parler snob. Des livres que l'on n'a pas lus?
Je suis spécialiste.
Non, mais je ne l'ai jamais vu précisément à cause de Rivette, parce que Rivette ne m'a pas du tout donné envie de voir le film. Et puis après, il y a eu un célèbre article aussi de Serge Danet, qui s'appelle « Le travelling de Capot ». Donc, que dit Rivette dans cet article? Il dit qu'il y a un travelling qui, justement... qui travelling avant sur le personnage d'Emmanuel Riva, qui va, et on est dans les camps de concentration, qui va justement donner à la réalité quelque chose de...
Une intention
en tout cas, et que c'est complètement déplacé dans le contexte.
Oui, qui va esthétiser le geste de la prisonnière qui s'accroche au barbelé.
Exactement.
Et donc la caméra recadre.
Voilà, recadre.
Et fait un travelling.
Il fait un travelling, il trouve ça insupportable parce que
obscène.
Justement, c'est obscène.
Mm-hmm.
Parce qu'on est dans un camp d'extermination. Alors, je ne sais pas ce qu'il aurait pensé de la liste de Schindler, qui est pour moi, par ailleurs, un film admirable, mais bon. Il trouve ça insupportable. Alors, Pasolini fait exactement ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va... Mais si, qui esthétise quand même la réalité. Alors, pas du tout de manière obscène, évidemment, parce que pour Rivette, c'est obscène. Mais Pasolini utilise énormément les mouvements de caméra, il utilise énormément... C'est quelqu'un qui admire la technique cinématographique. Et justement, Pasolini, on a avancé cette idée-là, c'est un maniériste. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va... Alors, le maniérisme, pas du tout dans le sens pictural, mais dans le sens aussi où l'a donné Serge Danet. Je cite Serge Danet. Voici ce que dit Serge Danet à propos du maniérisme. Plus rien n'arrive au personnage, tout arrive à l'image. C'est-à-dire que c'est quand même quelqu'un qui aime l'image, qui aime faire de l'image. Et souvent, c'est magnifique, évidemment, parce que c'est quelqu'un qui va justement travailler l'image. Et le cinéma, c'est aussi l'art de l'image. Mais attention, il arrive des choses aussi au personnage, bien sûr. Hein. Là, c'est un petit peu trop radical. Plus rien n'arrive au personnage, tout arrive à l'image. Il arrive aussi des choses au personnage. Par maniérisme, évidemment, Serge Danet parlait plutôt des cinéastes comme Tarantino, des cinéastes comme Benex. Voilà, ça n'a absolument rien à voir avec Pasolini. Mais voilà, donc c'est pour cela que Pasolini va être un cinéaste complètement méprisé, pas du tout étudié par les critiques de l'époque. Et il va être réhabilité, malheureusement, après sa mort.
Par carence technique, d'une certaine façon ou, enfin,
Non, qu'il ne rentre pas du tout dans les canons, en quelque sorte, de l'époque.
C'est-à-dire, l'image n'est pas assez léchée, ou des choses comme ça?
Non, au contraire, justement. C'est-à-dire que Pasolini, justement, c'est quelqu'un qui aime l'image, qui aime les mouvements de caméra, qui aime justement, le réel, mais j'ai envie de dire, il prend le réel et en même temps, il essaye d'en faire, je trouve, autre chose.
Oui, voilà. Il essaie de faire un langage.
Langage.
Il dit ça lui-même. Il dit, l'italien est né du prestige littéraire de Dante, voilà, de Pétrarque et de Boccaccio. Moi, j'ai choisi le cinéma pour changer le langage, pour changer de nationalité, pour dépasser la question des nations et la question des classes. Donc ça, pour moi, c'est pareil, hein, si tu veux. C'est pour ça qu'il va s'intéresser aussi, voilà, ce que tu disais, Monique, à l'extériorité, à la fois à l'Afrique, au Maroc, à l'Inde et tout ça. Donc, en fait, il cherche le cinéma, enfin, alors, c'est pas le seul, mais après, quand même, être un grand poète et un grand critique, donc à manier l'écriture, le cinéma, pour lui, est un langage à inventer, à part entière.
Il y a trop de subjectivité dans son cinéma. Il y a trop de subjectivité. Monique en a parlé, justement, il y a une élection, c'est vrai, c'est la caméra aime les personnages, de la même manière que les personnages...
Comme chez Cassavetes, hein, d'une certaine façon.
Et justement, ça va gêner justement les critiques de l'époque. Il n'y a pas assez de neutralité. Montage interdit, voilà, le travelling qui enjolive, etc. Donc, on trouve que chez Pasolini, il y a une trop grande subjectivité. D'ailleurs, on a parlé la dernière fois de la notion de subjectivité chez Pasolini. C'est-à-dire que la caméra est trop présente, elle élit les personnages, elle va chercher dans les visages les bouches, les oreilles, les nez. Il y a quelque chose de trop intrusif dans la caméra qui ne va pas plaire justement à l'époque.
Oui, alors pour utiliser ce que tu viens de dire, Olivier, et le prolonger un peu, il y a chez Pasolini un refus du plan séquence sur le plan du style, parce que le plan séquence justement est naturaliste et il va faire un cinéma, il revendique un cinéma de montage et il choisit un montage qui est heurté, saccadé, avec le refus des raccords, les raccords qu'il lit à travers les regards ou à travers les mouvements. Et il y a une séquence dont tu m'as parlé, Jean-Hugues, dans l'Évangile, qui illustre complètement ce cinéma de montage, saccadé et heurté. C'est le moment où il filme le sermon sur la montagne du Christ. Donc il filme intégralement ce discours du Christ. Donc il filme toujours la même chose, en plan fixe, c'est le visage du Christ et la parole du Christ, mais il réintroduit de la discontinuité en enchaînant par exemple des plans où le fond est présent, puis des plans où le fond est absent, dans la seconde qui suit, des plans où le Christ est tête nue, puis se
porte un voile. Il n'est pas vêtu de la même manière,
des plans où il y a de la lumière, de l'obscurité. C'est le jour, c'est la nuit, et les éléments atmosphériques ne sont pas cohérents. Il y a du vent, puis du calme, orage, tempête, puis le soleil, et le Christ continue de proférer avec une sorte de fureur ce discours révolutionnaire qui est le sien, puisqu'il est venu pour porter le glaive et non pas pour porter la paix. Hein. C'est un Christ de combat. Enfin, bon, donc ça, c'est hors sujet par rapport à ce qu'on disait, c'est-à-dire cinéma de montage, qui veut la rupture, le discontinu.
Oui, oui. Lors d'une interview à la télé, je ne sais pas exactement la date ni la source, mais on lui demande si l'Évangile est un film de compassion, où il a cherché la compassion, et il répond « L'Évangile est une œuvre intellectuelle extraordinaire, un fruit de la pensée, il comble, il régénère, il donne de l'élan ». C'est-à-dire qu'en fait, il prend ça comme une œuvre à part entière et non pas dans le rapport à la piété ou à la croyance.
Oui, c'est une figure de révolte contre l'ordre établi. C'est une figure de combat contre le monde moderne exécré aussi. Donc, il incarne une protestation radicale, le Christ. Alors, vous avez envie de revenir encore un peu sur le style de Pasolini?
Une dernière citation, voilà. Alors, je ne sais pas si on l'avait dit la dernière fois, mais voilà ce que dit Pasolini dans l'expérience hérétique. « Mon amour fétichiste pour les choses du monde m'empêche de les voir naturelles. » C'est-à-dire pour lui, la nature n'est pas naturelle. Il les consacre ou les déconsacre une à une. Il ne les lit pas dans leur fluidité exacte. Il ne tolère pas cette fluidité. Il les isole et les idolâtre avec plus ou moins d'intensité. Donc en d'autres termes, alors que Rossellini, par exemple, va utiliser le plan séquence, le son direct, en considérant que les choses sont naturelles, c'est-à-dire la manière de nos documentaires, on va filmer les choses de manière très neutre. Mais Pasolini va au contraire disséquer, prélever dans chaque être ce qui va être confirmé par le filmage. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va, en quelque sorte, aller filmer, par exemple, un très gros plan. Donc, la caméra n'arrête pas de bouger. Et il y a véritablement, je pense, une pulsion de la caméra chez Pasolini. La caméra a un côté pulsionnel, c'est-à-dire pulsionnel au sens où elle désire. Elle désire les personnages. Et ça, c'est quelque chose qui va pas forcément plaire à l'époque, parce que... Et évidemment, Pasolini est amoureux de ses personnages, c'est très clair. Il les considère comme des modèles. Il est amoureux de leur gestuelle, de leur posture. Et il va même jusqu'à les idolâtrer dans quelque chose d'érotique, même, dans une pulsion érotique, on peut dire. Pulsion sexuelle, même.
Dans le Cellino et Cellini, c'est ça? C'est ce qu'on dit, Cellino et Cellini. Il y a, dans le making-of, il y a Toto qui vient de courir, si tu veux, pour une scène. Ouais. Et en fait, il est complètement essoufflé parce qu'il a un certain âge. Et à ce moment-là, Pasolini lui dit, mais il faudrait faire deux scènes, mais écoute, non, tant pis, on gardera la première, tu vois, mais il a besoin de ces deux scènes, mais par respect pour Toto, il est prêt à sacrifier le deuxième sprint de Toto. Et je trouve que, voilà, c'est ça aussi, c'est ça aussi un cinéaste qui n'est pas trop dogmatique.
Oui, bien sûr.
Là, tu nous introduis sur des choses plus difficiles, mais pourquoi pas, on peut faire un détour par les acteurs.
Oui, voilà. Alors moi, je pensais en fait les acteurs, je pensais, alors évidemment, la figure de Franco Citti, mais je pensais aussi qu'on pouvait...
Oui, dis quelques mots Franco et Sergio Citti.
On y reviendra après, peut-être, parce que c'est aujourd'hui le 8 mars, et donc les femmes chez Pasolini, quand même. Les femmes chez Pasolini, Anna Magnani, Maria Callas... Suzanne Pasolini, Hélène Surgère,
Sylvana Mangano
dans Oedipe Roi, notamment.
Laura Betti.
Franca Pessut, je crois, celle de Hackathon. Et puis Inès Pellegrini, ma préférée dans les Mille et Une Nuits. Donc il y a aussi ces femmes emblématiques du cinéma de Pasolini qui habitent ce film... qui habite ses films magnifiquement en ce 8 mars 2025, on s'en rappelle. Voilà. Alors je reviens tout de suite, hein, moi je t'écoute. La figure de Franco Citti, évidemment, c'est incroyable, notamment dans Oedipe Roi, jusqu'au Diable des Mille et Une Nuits. Franco Citti, c'est le double, on en parlait tout à l'heure, Olivier, c'est le frère.
Oui.
C'est le frère que Pasolini a perdu.
Oui.
Et c'est son double, un peu comme Truffaut, Jean-Pierre Léo.
C'est ça.
Et on continue.
Mais il le fait parler d'ailleurs, hein, il le fait proférer souvent des phrases, des phrases extraordinaires. L'honorable société des crèves la faim, tous ainsi on aurait gagné la guerre, je cite quelques phrases d'Hackathon, hein. Cet homme a de l'or dans les pieds, voilà. Donc souvent aussi, là aussi la réalité est déformée, vous avez bien, par la poésie, puisque les personnages, qui sont souvent des personnages illettrés, s'expriment de manière poétique, voilà, sans arrêt, intellectuelle, en proférant d'ailleurs des phrases qui ont souvent une valeur politique aussi. Hein.
Il n'y a pas de faiblesse de jeu dans tout ça, parce qu'il faut quand même... Il faut quand même, comme on dit un peu vulgairement, l'enquiller, l'évangile. Il faut enquiller Oedipe Roi et Franco Citti, qui va jouer quand même dans Hackathon, dans Mamma Roma, dans Oedipe Roi, dans Porcherie, dans le Décameron, dans les Contes de Canterbury, dans les Mille et Une Nuits. Ça fait un sacré parcours.
Pasolini dit à propos de ces comédiens, qui ne sont pas des professionnels, ils ne jouent pas, ils se représentent eux-mêmes. Et il parle bien sûr aussi de Ninetto Davoli, qu'il a rencontré en 1963 sur le tournage de La Ricotta, qui était venu là par curiosité, qui est apprenti menuisier. Mm-hmm. Il a 14 ans et pendant 10 ans, il sera l'amoureux et l'ami de Pasolini dans un attachement indéfectible et un partage absolu, bon, amoureux, sensuel et intellectuel et spirituel.
Et justement avec un corps très particulier, toujours sautillant dans le Chenier de Tsunami,
oui,
bien sûr, dans les Mille et Une Nuits.
Voilà, Angelo,
il est à la fois l'ange et à la fois, moi je trouve qu'il a un côté cabri, si tu veux. Il est toujours en train de, justement, voilà, et ça c'est incroyable, bien sûr.
Il incarne, bon, cette insouciance heureuse, cette innocence.
Il n'y a pas trop d'équivalent dans le cinéma ailleurs, même dans la comédie italienne,
semble-t-il.
Et dans Uccellacci et Uccellini, il forme avec Toto, qui lui est un grand comédien professionnel, comique, très connu italien. Bon, un couple assez extraordinaire. Et je propose qu'on écoute un extrait de Uccellacci. Alors, je dis rapidement le contexte. Ces deux sous-prolétaires vagabondent à travers une autoroute, des campagnes, sans but apparent, même si, à un moment donné, il y a une destination, mais elle importe peu. Et ils vont rencontrer, dès le début du film, un oiseau, un corbeau, un corbeau qui parle. Ouais. Alors, on va écouter un extrait de ce dialogue entre le corbeau et ces deux hommes.
Juste un mot, je voulais juste dire qu'un nouveau paradoxe de Pasolini, c'est un film à la fois anticlérical et franciscain. C'est-à-dire qu'il est les deux à la fois.
Oui, c'est à la fois un hommage à Rossellini.
Hommage et une attaque, parce que quand même, il renverse tout. Les tables sont renversées quand même.
Oui, parce que la prédication aux oiseaux de Saint-François finit dans un fiasco cruel, puisque les oiseaux sont attaqués par les faucons.
Encore une fois,
c'est toujours la même loi.
C'est quelque chose de sacrilège, encore une fois.
Donc, Uccellacci e Uccellini.
Scusi, io non l'ho mai vista da queste parti. Ma da dove viene?
Alors, Toto, je ne vous avais jamais vu ici. D'où venez-vous? Qui êtes-vous? Le corbeau?
Il mio paese si chiama ideologia.
Je viens de loin. Mon pays s'appelle l'idéologie. J'habite la capitale, la ville du futur, rue Karl Marx, au numéro 70x7. Alors, Toto, et nous, au bourg de la poubelle, et Ninetto, rue des Crèves-la-Faim, au numéro 23, en bas du mont des Clairs-Ébous, célèbre pour le martyr de Saint-Analphabète. Il continue à cheminer, Toto commence à se plaindre, le soleil commence à taper, c'est la cervelle qui brûle, et Ninetto, hey « Eh papa, si on s'arrêtait dans ce pré pour faire la sieste ?»« Avance, salopard. Attends, t'en as envie, toi aussi. » Alors, Toto, j'ai deux corps aux pieds, un sur le petit doigt, l'autre au gros orteil qui me fait souffrir l'enfer.
Cammina, carogna. E dai, che te va pure a te. C'ho due galletti. Uno sul ditino, l'altro sul ditone, che mi fanno passare le pene del purgatorio.
Beati voi. Alors, le corbeau, quelle chance vous avez.
Costa migraigne.
Quelle chance, mon œil, avec la migraine que j'ai.
Perché beati.
Oui, quelle chance. Pourquoi quelle chance? Vous avez la chance de parcourir librement les rues du faubourg de la ville, d'entrer le matin dans les gargotes avec de jeunes ouvriers, d'embrasser des filles en costume d'ange, de parler de vie et de mort à tort et à travers, tandis que moi, vous n'avez pas de parents, de famille, rien. Mes parents sont sieurs doute et dame conscience. Moi, par contre, je suis Ninetto, fils de Toto l'innocent et de Grâce la simplette.
La vostra innocenza, la vostra semplicità e la vostra grazia sono religiose.
Votre innocence, votre simplicité et votre fraîcheur sont religieuses. Bon, c'est là qu'on rejoint ce que vous avez dit tous les deux sur la sacralisation, la magnification de ce sous-prolétariat. Alors, il y a une dimension bien sûr autobiographique dans ce corbeau marxiste. Hein, il habite rue Karl Marx, ses parents sont le doute et la conscience. Et
c'est beau le doute.
Oui, mais c'est aussi l'angoisse et l'impossibilité d'adhérer à la vie d'une manière innocente et allègre, comme en sont dotés Ninetto et Toto, le père et le fils. Et du côté de l'intellectuel marxiste, et la solitude, l'exclusion, et L'incapacité d'adhérer immédiatement à une vie instinctive et de connaître cette joie que le corbeau célèbre avec nostalgie. C'est la vie à laquelle il a renoncé.
Et le corbeau, c'est pas non plus un animal très très abordable, en fait. C'est un animal noir qui représente aussi une part d'ombre.
Oui, aussi. Et oui, l'oiseau de mauvais augure. Alors, vous allez peut-être raconter comment se finit ce film.
T'en rappelles? Je m'en rappelle. Moi, je l'ai vu la semaine dernière. Comment il finit ce film?
Non, ah,
oui.
Vous allez me dire.
Ah non, attends.
Donc, après bien des péripéties au cours desquelles il rencontre finalement tous les problèmes sociopolitiques de l'Italie contemporaine des années 60. Bon, oui, alors
vas-y. Vas-y. Si.
Mais non, mais fini, mais je me rappelle à la Chaplin, un peu à la Chaplin.
Oui, voilà, ce sera la dernière image.
C'est
alors,
ça.
À un
la
moment donné,
après,
Toto fait signe à Ninetto en agitant ses bras pour lui faire comprendre que maintenant ils vont se tirer
tous les deux,
le laisser là.
D'accord.
Et il fait aussi un autre signe de connivence. Parce qu'ils sont sans cesse morts de faim, c'est encore on est encore dans Acatone, hein, et ils se jettent tous les deux sur le corbeau pour le bouffer.
Il bouffe le corbeau, d'accord.
Et on ne voit plus au sol que quelques plumes qui sont restées. Donc ils ont dévoré le corbeau et ils s'éloignent. Et en effet, Pasolini filme le couple du père et du fils exactement comme à la fin des temps modernes. Chaplin filmait le couple qui allait vers l'avenir. Mais là, l'avenir est bouché parce qu'il y a un avion. Apparemment, ça a été filmé près de Fiumicino, l'aéroport, et un avion décolle et en diagonale traverse l'écran. C'est vers cet avenir-là qu'ils vont, un avenir d'aliénation. Et donc, c'est très, très ambigu. Je ne sais pas comment vous comprenez cette fin où il bouffe l'idéologue. Alors, est-ce qu'il s'agit de s'en émanciper? Est-ce qu'il s'agit au contraire de s'en nourrir en absorbant sa capacité d'analyse critique, peut-être pour armer d'une sorte de conscience, dépasser cette condition aliénée qui est la leur et ne pas en rester simplement à ce sautillement bienheureux.
On pourrait presque le voir beaucoup plus prosaïquement, simplement parce qu'ils ont faim.
Aussi,
dans un côté un peu néo-réaliste, pur et dur.
De toute façon, il y a toujours un côté brut, et non-verbal, et corporel, physique, élémentaire, qui est premier et qui est essentiel dans tout son cinéma, y compris au cœur du tragique. Mais là, on est dans une fable satirique, dans une allégorie, dans une parabole.
Alors, Pasolini a dit quand même de ce film que certes, c'était un grand film burlesque, c'est sûr. Déjà, il a pris l'acteur Toto, qui était un acteur très populaire, mais qu'en même temps, pour lui, c'était quand même le film de la fin des idéaux. Hein. Une fois de plus, que c'était... On peut oser cet oxymore de burlesque un peu désespéré, parce que c'est la fin des idéaux marxistes et communistes. Et c'est un film aussi, quelque part, qui a une part, évidemment, une part d'autobiographie, hein, bien sûr.
Oui, d'ailleurs, je crois que c'est le Corbeau qui dit que le temps de Rossellini est fini.
Le temps de Rossellini est fini, oui, c'est ça.
Et il y a des inserts dans le film d'images d'archives où l'on voit les obsèques de Togliatti. Togliatti, oui. Et l'émotion populaire. Une page se tourne. Bon, certes, Pasolini reste... sinon un compagnon de route, du moins, reste attaché à l'analyse marxiste de l'histoire et de la société, mais il est revenu aussi sur cette adhésion et il pense que la condition humaine et le destin humain ne peut se réduire à une analyse de type purement économique en termes de production, consommation, et qu'il y a une énigme dans l'être qui transcende infiniment l'analyse que le marxisme a pu en proposer. Donc,
voilà, il y a quelque chose de très caustique dans ce film, finalement, qui annonce un peu les films suivants, à savoir Porcherie, notamment Les Contes de Canterbury, qui est pas loin, peut-être, un côté grinçant, qui est pas loin, peut-être, d'un certain Marco Ferreri, par exemple.
Oui, Porcherie, La Grande Bouffe, enfin, il y a des ponts, je pense, à cette époque-là, oui, bien sûr.
Alors, ce que l'on a dit, peut-être, pourrait déboucher sur la question de la modernité, mais aussi la question de la joie.
Je vois plus la même chose, je t'ai dit depuis la dernière fois. Par contre, ce que je peux peut-être dire comme ça...